Des oreilles avec des trous dedans.
Une émission présentée par Dédé, et aujourd'hui il y a un Dédé qui manque, par contre il a été remplacé subrepticement par Antonin, Trio Wang, qui non, ou Wang. Bon, on sait pas, justement on se posait la question. Hein.
Comme lui-même ne sait pas.
C'est ça qui est bien.
Et en fait, c'était prévu qu'on soit quatre aujourd'hui, mais il se trouve qu'on est trois.
Oui, donc Antonin ne devait ne pas remplacer pas. André, non. Mais non. Est notre invité.
Voilà.
Ce soir.
Et donc, c'est l'émission numéro 277. Une émission que vous pouvez entendre sur Radio Libertaire 89.4 et sur Radio Bazar Naum 80.
Et ouais, pendant que tu cherches ça,
92.3.
Voilà, super. Et si vous n'êtes pas là en train d'écouter, ce que vous pouvez faire, c'est bien noter que vous pouvez l'écouter, cette émission. Si vous êtes en train de la rater, vous pouvez l'écouter sur desoreilles.free.fr. Notez bien.
Voilà. Et là, vous pouvez écouter toutes nos émissions.
Depuis le début.
Voilà.
Ça fait 277 heures, ça doit pouvoir se caser dans une petite semaine, mais il faut vraiment avoir rien d'autre à faire.
Voilà, alors...
Comment
est-ce que... Donc Antonin...
Bonsoir.
Bonsoir. Ouais. Comment est-ce qu'on va te présenter? Est-ce qu'on va te laisser cette dure tâche ou est-ce qu'on va s'en charger nous-mêmes?
C'est trop salaud, ne...
C'est dur. Hein. Alors donc, Antonin, d'abord, vous êtes rencontré avec Dédé.
Oui, et tout à fait par hasard.
Tout à fait par hasard. Très bien. On aurait pu se rencontrer non par hasard, en fait, oui, mais il se trouve qu'on ne s'est pas rencontré.
Il se trouve que ça se trouve qu'on s'est rencontré, mais on ne se souvient plus.
On ne se souvient plus. Hein.
Bon, alors en fait, c'est juste, c'est pas tout à fait le hasard, parce que Antonin est donc saxophoniste et clarinettiste. Dans l'ONJ, l'Orchestre National de Jazz, alors pas uniquement, mais bon, j'imagine que c'est quand même beaucoup pour ça que les gens te connaissent le plus.
Un ONJ dont on a déjà pas mal parlé.
Voilà, et donc dont j'avais été écouté au Balzac Métropolis. Enfin, vous aviez joué avec l'ONG, vous aviez improvisé sur le film de Fritz Lang, Metropolis. Bien sûr, j'avais entendu d'autres disques de l'ONG, notamment celui composé par John Hollenbeck et puis celui avec Robert Wyatt. Et voilà.
Un des musiciens favoris de cette émission, John Hollenbeck.
Ouais,
j'ai vu. Ouais.
Et j'avais été assez scotché par ce que vous aviez fait. Et par hasard, après, on s'est rencontrés à l'Ermitage, à un concert de Jukebox.
Ouais, très bon concert.
Et du coup, j'en ai profité pour te parler un peu et t'inviter. Voilà.
Merci.
Mais donc, comme je disais, donc l'ONG, évidemment, c'est un peu plus. Enfin, c'est assez exposé comme groupe, donc pas mal de gens connaissent, mais j'imagine évidemment que tu joues dans plein d'autres groupes et que tu fais plein de musiques différentes.
Oui. Et l'ONG. C'est une part importante de ce que je fais, mais ça me laisse une autre part aussi très importante pour mes choses plus personnelles.
Ouais.
Et donc parmi ça, il y a un duo que j'ai monté avec Benoît Delbecq qui s'appelle Aéroplane. On a sorti un disque l'année dernière.
Ouais.
J'ai un quatuor de clarinette qui s'appelle Watt, W-A-T-T, qui consacre à l'improvisation très minimale de notes tenues pendant longtemps.
Des drones.
Des drones, exactement. Et à l'évolution lente, et c'est très 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 bien.
Ah ouais.
J'adore.
Morton Feldman.
Oui, ou La Montaillon plutôt.
Ah oui, oui.
Ouais.
Ouais.
Ouais, donc ça, effectivement, tu m'avais parlé de ça, et c'est marrant parce que c'est avec Jean-Brice Godet, et qui sont les deux autres
Jean Doustessier et Julien Ponviane.
Ok.
Julien Ponviane qui a aussi une grande formation à laquelle je participe, qui s'appelle AUM, et qui, pour le coup, est assez Morton Feldmanienne.
Ah ouais,
oui,
AUM
c'est, ouais, ça s'appelle AUM.
Ouais.
Et AUM, en fait.
Ouais.
Je suis pas bon pour les prononciations.
Ouais, c'est pas grave.
Qui est une formation de 15 musiciens, très. Comment dire.
Il y a quoi comme, c'est quoi comme formation, enfin, il y a beaucoup de, c'est très varié.
Il y a pas mal de vent, pas mal de.
Une rythmique.
Une rythmique, ouais, ouais, autour. Rythmique. Batterie, deux basses, ouais. Deux claviers.
Ah ouais.
Et c'est assez spatial, je dirais. Assez, j'aime
super.
Bien.
AUM, c'est marrant parce que ça me fait penser à. Ça s'écrit peut-être pas pareil, mais à la secte japonaise qui avait balancé du gaz, du sarin dans le métro japonais en 1995.
Ah ouais. ça s'appelait comme ça ?
Ouais, je crois que ça s'appelait comme
ça. C'est, je pense qu'on pourrait définir la musique comme. Post-attaque biologique, ça serait pas mal.
D'accord, ça vient peut-être
c'est
de
assez,
là, alors.
Assez
en fait.
Calme.
Et, mais peut-être assez parlé, écoutons d'abord peut-être un morceau de justement cet album dont tu parlais avec Benoît Delbecq, Aéroplane, parce que c'est un album qu'on a beaucoup aimé. Et puis ouais. Aussi, Benoît Delbecq, c'est un musicien qu'on a souvent présenté dans cette émission. D'ailleurs, on a déjà vaguement parlé de l'invité, puis on l'a jamais fait, ça s'est pas présenté, mais on le fera peut-être un jour. On l'écoute et puis tu nous raconteras un peu comment ça s'est passé.
Quel morceau on écoute?
Ah oui, alors moi le morceau que, enfin j'ai tout aimé, donc c'était vachement dur de choisir. Mais il y a quand même un morceau qui m'a, je sais pas pourquoi, qui m'a vraiment touché plus que les autres, c'est Herbe luisante. Et sinon, toi, t'avais choisi...
Nos lointains et 16 décembre.
Voilà, donc tu dois choisir, Antonin, entre ces trois.
Allons sur Herbe luisante.
Alors... excuse-moi, j'arrive. Voilà, c'est parti.
Thank you.
Voilà, Herbe Luisante, donc avec Antonin Trihuang, clarbasse et sax alto, et Benoît Delbecq au piano, extrait d'Aéroplane.
C'est sorti l'année dernière, c'est ça ?
Ouais.
Il y a déjà un an ou...
Non, c'était en juin.
En juin, oui.
Ouais.
D'accord.
Pas encore.
Bon, alors évidemment, on a qu'une heure, mais on aurait envie d'aborder plein de sujets, mais pour prendre un peu le contre-pied d'autres émissions de radio consacrées à la musique, où on te poserait plein de questions sur ce que tu fais, ce que tu vas faire, et comment t'en es arrivé là, on t'a plutôt proposé d'amener de la musique. La tienne peut-être un peu plus tard, mais aussi d'autres choses qui t'ont marqué ou que des choix éclectiques que tu as eu envie de faire pour l'émission. Et puis nous, on réagira par rapport à ça, par rapport à tes morceaux, soit en mettant autre chose, soit simplement en te laissant poursuivre le chemin que tu as choisi.
Ouais. Alors, qu'est-ce que tu voudrais nous faire écouter pour commencer ?
En fait, il y a un musicien qui me botte bien en ce moment, que ça fait un moment que je connais, mais j'y reviens assez souvent. C'est un compositeur américain qui s'appelle George Russell.
Ah, donc, ah oui, oui.
Ouais.
Qui est mort il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas ?
Alors, je ne sais pas quand il est mort. Il est mort, oui.
Je crois qu'il est mort il n'y a pas très longtemps.
Ah, j'ai pas.
Et je me souviens d'un disque qu'il avait enregistré avec l'orchestre du CNSM il y a très longtemps.
Non, c'est
ouais,
vrai.
Ouais, ouais. Je dois l'avoir ici.
Ah ouais, ça m'intéresse.
Ouais. Bon, enfin bref.
Ouais.
Qui en fait, à l'origine, un batteur et qui a arrêté assez vite sous l'ombre de Max Roach.
Ah ouais,
ouais. Qui s'est mis à arranger beaucoup, pour Charlie Parker au début. Et qui avait plein de concepts. Alors, il a écrit des bouquins que je ne connais pas, mais ce qui est... Enfin, ce qui est important, c'est la musique qu'il a composée, je trouve, dans les années 50,
ouais.
pour des petits ensembles, qui est assez remarquable. Quoi. On peut commencer par
c'est super, ces trucs.
Il y a, je pense, une des pièces les plus connues, c'est Concerto for Bill the Kid, qui est un concerto pour Bill Evans, en fait.
Ah ouais.
Et on peut commencer par mettre ça.
Ok, on y va et on.
Ouais. Ah ouais, c'est parti. Thank you.
Ah oui, c'est terrible.
C'est super bien. Ouais. C'est quelle année, ça?
C'est 1956.
56. Ouais, c'est ça.
C'est George Russell and his small tet. Et donc, ils sont, je pense qu'ils doivent être... C'est quoi? C'est piano, basse, batterie, guitare, trompette, sax, alto.
Ouais. Il y a une brochette de... Bon, il y a Billy Evans, ok.
Ouais.
D'ailleurs, 56, Billy Evans, il était super jeune, il n'était pas encore connu. Hein,
il n'était pas, tout jeune, mais il était
pas connu. Il n'était pas du tout, parce que ses premiers disques sous son nom, c'est 58, je crois, Dig.
Ouais. Ouais, c'est ça.
Ça envoie déjà grave, et puis il y a une bonne brochette de musiciens là-dedans aussi.
Oui, oui, c'est Hal McCusick. Sax alto, ouais. C'est Art Farmer
ouais.
La trompette.
À la trompette, oui. Ouais. Il est moins brillant que Bill Evans, je trouve, sur son intervention, mais les arrangements sont incroyables.
Hyper bien.
C'est incroyable.
Super.
Et en fait, ouais, c'est une manière d'écrire. Dans sa musique, il y a beaucoup de choses décrites, des lignes indépendantes qui se croisent, des espèces de polytonalités, des dissonances.
Ouais.
Et c'est très, très. Très, très particulier et très accompli déjà dès le départ, je trouve. Et ce morceau, c'est le premier morceau que j'ai entendu de ce mec-là, et je trouvais ça incroyable. Et en fait, à chaque fois, je dirais, écoute, c'est quelque chose d'incroyable, quoi.
C'était son premier disque, ça, en fait. Ouais. C'est vrai que c'est...
Et là, il est compositeur-arrangeur et c'est tout.
Voilà, c'est tout. Ouais. Déjà, ouais, c'est
pas fréquent déjà.
C'est un peu, c'est un peu comme Gil Evans à l'époque. Hein, ils étaient un peu les deux à faire ce genre de choses. À des fois se mettre au piano comme une ombre. Mais, et donc voilà, j'ai voulu rapporter ça parce que j'ai le nez. pas mal le nez là-dedans en ce moment. Et en fait, il se trouve que c'est la couleur de ces arrangements, de ces orchestrations, c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal à cette époque, dans les années 50. Il y a une espèce de goût de la dissonance, d'insister sur des fréquences particulières.
Ouais. Provoquer un peu,
provoquer un peu, mais avec un côté aussi brillant, concis. Et c'est assez fort. Et ça, c'est une période qui dure pas longtemps, quoi. C'est à peine 10 ans. Et après, des années 60, c'est différent. C'est beaucoup plus... l'esprit est différent, quoi. Et je pense que ça vient, en réfléchissant, je pense que ça vient, la couleur vient pas mal de Monk. Il y a des façons d'insister sur des notes, je pense qu'il a dû être assez inspirateur de tout ça.
Il a dû inspirer plein de monde dès cette époque-là, quoi, Mais c'est marrant parce que... Ouais, non, pardon.
Non, vas-y.
Non, j'ai une théorie sur l'année 1956
Ah oui, c'est vrai, et moi sur l'année 1969.
Et en fait, j'avais oublié ce disque, mais ça confirme ma théorie.
Ouais. Ah oui,
56,
d'accord.
C'est une année avec plein d'albums où il y a plein de directions qui sont ouvertes, qui ont démarré. Enfin bon, bref, il y a Pithecanthropus Erectus qui est quand même un album phénoménal en fait dans l'histoire du jazz. Puis il y a le premier disque de Sun Ra, enfin il y a plein de trucs, de pionniers quoi en 56.
Ouais. Pour revenir sur Mingus, je pense que je pourrais mettre pas mal en parallèle Russell et Mingus. Mingus il ferait un peu dans le même esprit, en plus improvisé, c'est-à-dire avec l'improvisation collective.
Ouais.
George Russell, ça serait plus comme une sorte d'improvisation collective écrite. Et je trouve qu'il y a, mais il y a cette même couleur, un peu de... C'est très, très ancré dans le blues, avec un... Ouais, toujours swing, ou alors dans ces petits rythmes latins qui viennent d'arriver. Ouais. Et j'aime beaucoup ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait... D'autres gens qui, à la même époque, faisaient dans cette lignée des choses comme ça.
Mais il y a plein de trucs. Enfin, c'est vrai qu'il y a aussi... C'est une époque, en fait, où ça a exploré à tout azimut, en fait. Avec la West Coast, Lenny Tristano, enfin, qui est sur la côte Est, mais... Et tous les mecs de la West Coast qui expérimentent à tout va, quoi.
Puis j'aime bien c'est pas facile à cataloguer parce qu'il y a des trucs qui sont complètement écrits et pourtant c'est quand même oui, si un compositeur écrivait pour un groupe de jazz, donc il y a toujours le swing et il y a toujours ces choses là et puis en même temps je trouve que ça reflète vachement cette époque où il y a pas forcément dans ce qu'on vient d'entendre, mais il y a un côté un peu une espèce de froideur, un peu de je sais pas comment dire, je sais pas, pour moi c'est un peu la musique de la guerre froide, quoi.
Ah
je sais pas. Pas, c'est, l'extrait qu'on vient d'écouter, ce serait pas un bon exemple, mais il y a le goût de la dissonance, le goût de le fait de
ouais, c'est pas sur la séduction, il y a un côté
la manière qu'ils ont,
franchement, sans s'embarrasser de...
Oui, et puis c'est une avant-garde qui est complètement différente de ce que sera le free. Les musiciens, ils jouent très... On les imagine très sérieux, sont très droits, en costard. J'ai cette image, là parce que après avoir fait cette petite compilation, ça me... Je trouve que ça correspond assez. Et je pourrais continuer en mettant en fait un morceau sous le nom de Lyconite qui s'appelle Au Genard et qui est une composition de George Russell. Et il y a Miles Davis qui joue. J'annonce tout comme ça.
Tu fais bien d'envoyer avant. Comme ça, on dira pas de conneries, on dira pas, mais c'est qui ce trompettiste pourri ou...
Ah ouais, d'ailleurs, il galère pas mal.
Ouais, ça lui arrive des fois à cette époque. Bon, bah, on écoute ça, puis on fera nos commentaires débiles après. Donc c'était Au Genard, c'est ça?
Oui, alors c'est sous le nom de Lyconite.
Ouais.
Et donc là on y est dans cette atmosphère.
C'est un truc à l'envers.
Ah, peut-être.
Ranejdo, non, ça fait rien.
Peut-être que c'est un anagramme. Et oui, donc on y est dans cette espèce d'ambiance.
Bien froide.
Bien froide. Ouais. Bien froide, je sais pas.
Bien glacial.
Ouais. Mais c'était vachement des intellos quand même.
C'est voilà, ouais.
Enfin, moi je dis ça. Avec,
si, c'est ça.
Oui, complètement. Sans nuance, aucune péjorative évidemment.
On sent qu'ils ont envie de montrer que c'est qu'ils font de la musique savante, quoi. Que
ouais,
c'est,
ouais.
Que c'est sérieux. Ça, c'est 1951. Je sais pas si.
Ah ouais, à la vache.
Ouais.
Ouais. Et l'Iconitz, c'est... Ouais, quand même, j'en viens à l'Iconitz parce que c'est vraiment extraordinaire, je trouve, ce qu'il fait, là. Et bon, là, je vais rentrer un peu sur les sentiers battus, mais c'est un mec, en tant que saxophoniste, qui a dû te marquer un peu, quand même.
Ouais, à fond. Ouais. Oui, j'adore ce mec, ouais.
Ouais.
Il a, d'ailleurs... L'improvisation, elle est assez mêlée à l'écriture, donc c'est bon, on sent quand même que son langage, l'Iconitz, n'est pas le langage du compositeur, quoi. C'est quand même encore du bebop. Donc du coup, dès qu'il y a d'improvisation, ça s'éclaire un peu vers quelque chose de plus habituel, comme le solo de Bill Evans d'ailleurs aussi. Même si il est exceptionnel, c'est le langage. En fait, l'écriture dépassait. Finalement, un peu.
Tu veux dire que c'était pas dans l'improvisation. Ces mecs-là avaient pas toujours intégré les avancées qu'ils faisaient sur le plan. Mais quand même, chez l'Iconitz, je trouve, il y a des trucs. Il y a quand même des choses assez étonnantes,
sur
le plan du langage, avant 51. J'ai des enregistrements de 49.
Bien sûr. Mais c'est le seul avec Tristano.
Tristano ou avec Thornhill dans l'orchestre. Enfin, il y a des trucs dingues.
Oui, c'est un des seuls à s'aventurer dans la tonale. Il y a des choses où vraiment...
Mais ce qu'il y a, c'est qu'il le fait toujours avec un naturel incroyable. Ouais, c'est toujours hyper mélodique.
Ouais, c'est assez fabuleux.
Est-ce qu'on le laisse continuer ou on l'interrompt?
Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu voudrais interrompre? Si tu dis ça, c'est que t'as une petite idée derrière la tête.
Ah bah non, moi je sais pas. C'est-à-dire que moi, si j'interromps là, c'est pour passer un peu sur un autre univers, mais peut-être que t'as envie de continuer dans...
Ouais, je peux continuer un petit peu.
Ouais. Vas-y.
J'ai envie de mettre...
Ou alors...
Non, vas-y, bien sûr.
Vas-y.
Quelque chose que j'ai découvert, c'est... pas de George Russell, mais quand j'ai entendu, je pensais que c'était lui, parce que ça y ressemble vraiment.
Ouais.
Et c'est à la fin des années 50, c'est un disque du poète Kenneth Patchen.
Ah, c'est marrant parce que justement, le John Hollenbeck, le batteur, compositeur de Claudia Quintet, qu'on a beaucoup passé dans cette émission, son dernier disque, en fait, c'est entièrement sur des textes de ce poète-là.
Ah oui,
tu l'as entendu
pas. J'ai pas entendu le disque, non, je savais pas.
On en parlait tous les deux avec André l'autre jour. Il me disait qu'il avait été déçu, et c'est vrai que je vois pourquoi. Mais il y a quand même des choses super, mais c'est vrai que ça m'a un peu déçu en tant que fan de Claudia Quintet. Mais bon, bref.
Ouais. Donc c'est un écrivain de la Beat Generation, donc c'est exactement la même époque. Je pense qu'on peut aussi rapprocher ces univers, le côté New York des années 50, assez avant-garde et mélangé aussi poésie, jazz. Et ça, c'est assez. Alors, c'est vraiment dans le style George Russell pour moi. Sauf que c'est un inconnu. Enfin, que j'ai regardé en fait sur Wikipédia, et apparemment, il n'a pas fait beaucoup d'autres choses si ce n'est. Starsky et Hutch et des séries américaines dans les années 70.
Non.
Mais qu'est-ce qu'il a fait dans Starsky et Hutch?
Je sais pas, il a fait des.
Starsky ou Hutch? Non, il était pas.
Non, il écrivait de la musique, sur certains épisodes.
Ah oui,
et d'autres séries, genre comme je sais plus, je crois SWAT ou je sais plus.
Ah ouais.
Et donc il s'appelle Alan Ferguson. Et le morceau s'appelle. Le titre est dans le morceau.
Attends, merde, je vois pas ce que tu veux dire.
C'est Murder of Two Men by a Young
Kid. Ah oui, d'accord, ok.
By a Young
Kid.
Ah.
Wearing
Lemon Colored Gloves.
Ok. C'est
wearing
parti.
Lemon Colored
Gloves.
Gloves.
Des gants. Ok.
Murder of two men by a young kid wearing lemon-colored gloves. Wait. 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 Wait, wait. 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 Now.
Ah oui, étonnant.
Super.
Ah, c'est incroyable ce morceau. C'est vraiment bien fait.
Et comment t'as déniché ça ?
En recherchant des trucs, justement sur la Beat Generation et le jazz, et, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites en fait. Il y a eu.
Et donc par le poète, dont tu rappelles-moi son nom ?
Kenneth Patchen.
Kenneth Patchen.
J'ai trouvé, j'ai entendu ça et il y a tout un disque comme ça avec des poèmes et c'est la musique, c'est vraiment cet esprit là quoi. Il y a une couleur dans ces années là, dans ce milieu là quoi.
J'aurais dû ramener un extrait du John Lennon parce que c'est vraiment ça.
C'est vrai,
enfin,
ça ressemble.
Non, musicalement bon, c'est différent mais. C'est l'ambiance, le placement de la voix et tout. Enfin,
c'est
cet esprit-là, quoi. D'ailleurs, c'est frappant même. Tu dis qu'en fait, c'est tout un album sur ces poèmes de Kenneth Patchen.
Et qui dit... Et qui sont
parlés.
Bon, celui-là, c'est le plus composé. Donc la voix s'introduit vraiment
dans
à des moments précis. Il y a une espèce de tension, c'est très Hitchcockien.
Ouais.
D'ailleurs, je trouve que cette musique, ça se rapproche un peu aussi des films noirs et des films à suspense de l'époque. Je trouve. Et d'ailleurs, ça peut vous intéresser. Sur la pochette, il y a écrit... Le sous-titre, c'est « Put muscles in your ears ».
C'est «
Put muscles in your ears ».
Put muscles in your ears. Ouais, ça vous... Ça
les
vous
muscles dans les oreilles.
Les muscles dans les oreilles.
Ah oui, c'est comme une pub. Put.
Oui, c'est ça.
C'est un produit qui muscle l'oreille.
C'est ça, c'est super.
Ah, c'est bien, c'est ça qu'on en a besoin. Il nous en faut absolument, il faut nous en passer. Mais alors, le cinéma... Mais oui, alors, t'es à fond dans les années 50, quoi. Le cinéma et tout. Et d'ailleurs, les ciné-concerts avec l'ONG et tout ça...
On n'a pas fait de film des années 50.
Faire triper. Mais vous n'avez pas fait...
Il n'y a pas de film muet dans les 50.
Ah oui, c'est vrai, c'est que du muet, évidemment.
Mais on pourrait, remarquer. Ouais, c'est super de travailler sur des films. J'adore. Rémi Dumoulin qui est dans l'orchestre aussi, lui qui est un passionné de cinéma inconditionnel, qui vraiment connaît, qui joue du saxophone.
Du saxophone. Ouais.
Ah oui, ah, donc lui il se régale, connaît tous les films par cœur déjà.
C'est... Et d'ailleurs, en parlant de films, en voyant un court métrage d'Agnès Varda de 1957 qui s'appelle Aux saisons, au château, est-ce que vous connaissez?
Non.
Non.
En fait, c'est un des premiers films qu'elle a fait et c'est, je crois que c'est une commande quasiment publicitaire, enfin touristique, sur les châteaux de la Loire. Donc elle a fait un film sur les châteaux de la Loire, sauf que c'est Agnès Varda et c'est hyper personnel, hyper drôle, vachement bien. Et j'ai halluciné sur la musique qui a absolument rien à voir avec les châteaux de la Loire et qui a été composée par André Auder. Est-ce que vous connaissez?
Ah ouais, ouais, ouais.
Ouais
Ah bah oui, c'est aussi... Ouais, c'est l'improvisation. Enfin, son grand concept, c'était l'improvisation écrite, quoi.
Ouais.
Enfin, un paradoxe.
Ouais. Et la couleur, elle est exactement dans le même dans le même esprit.
T'en as,
c'est fou. Et j'en ai là. Ouais.
Ah super.
Et alors je sais pas si c'est la musique du, parce que je me souviens, j'avais plus le film, donc je me souviens plus si c'est ça correspond à la musique du film, mais je pense que c'est la même année et que ça s'appelle Le Palais Idéal. Donc je pense que c'est la même chose.
Okay.
Et ouais. Tu mets 1, 2, 3.
Ah attends, parce qu'il y en a plusieurs là. Ah attends. Ah oui, 1, 2, 3, ok.
Voilà.
C'est bon, j'ai trouvé. Excusez-nous, hein, les auditeurs, on fait la réalisation, tout en même temps.
Thank you.
C'est bien.
Ouais.
J'essaye d'imaginer les châteaux de la Loire et oui, tout. En fait, aussi, ça le fait quand même, hein, à fond.
Bah,
les...
de toute façon, musique qui a aucun rapport, il n'y a rien de mieux. Quoi,
ouais.
C'est les meilleures musiques de films.
Ouais.
Et donc, ouais, c'était André Oder, et qui est mort en novembre dernier, j'ai vu.
Ah ouais,
j'ai
appris. Ça s'écrit comment, Oder?
H-O-D-E-I-R.
Oui, c'est ça, H-O-D-E-I-R, c'est ça. Depuis tout à l'heure, j'essayais de... je connaissais son nom, mais j'essayais de...
Tu connais Anna Livia Plurabel?
Non.
Et et ben moi non plus, parce que ça a été bon. Je sais que je crois qu'il y a un orchestre qui a rejoué ça. Je me demande si c'était pas d'ailleurs Solal. Mais c'est une œuvre qu'il avait écrite sur des textes de James Joyce.
C'était un projet de thématique, ça.
Ouais.
On n'a jamais fait.
Ah oui, les grands textes littéraires. Ouais.
De faire une émission sur les grands textes littéraires. Ouais.
Ouais. Ils tous.
Ben, non, pas avec des musiques qui sont...
qui ont un lien avec les grands textes littéraires.
Ouais,
enfin.
Ouais.
Oh, il y a un paquet.
Il y en a pas mal, oui.
Ouais, il y en a un paquet. Mais justement, il y a Anna Livia Plurabel d'André Oder qui est un peu son grand œuvre, mais qui est presque jamais jouée. C'est d'une difficulté extraordinaire. Mais ça a été rejoué. Je crois qu'il y a un disque qu'on doit pouvoir trouver quand même. Mais ouais, enfin bon.
Ouais.
Anna Livia Plurabel. Quel beau titre.
Ouais, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, finalement, ça n'a pas donné grand chose. Enfin, disons que ça n'a pas eu de continuité. Ça en fait vachement bien l'époque. Je trouve que c'est. Ça.
Tu veux dire l'improvisation.
L'esprit de toutes ces musiques. On peut dire, c'est quoi? C'est du jazz avec de la tonalité, de l'écriture.
Ouais. C'est ce qu'on appelait le third stream, en fait, un peu.
Oui,
enfin,
un petit peu aussi.
C'est une étiquette.
Oui, oui, c'est après.
Mais c'est quand même cette époque.
Ouais,
là, j'ai un peu perdu le fil sur l'improvisation écrite. Par rapport à ce qu'on vient d'écouter d'André Oder, là. Parce que,
là, il n'y a pas d'impro.
Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais qu'est-ce que tu entends par.
Non, en fait, le grand truc de André Oder, ça a été un moment de se dire, justement, comme mes musiciens, ils peuvent pas improviser dans le style de ce que j'écris, et ben je vais leur écrire des improvisations.
Ah, d'accord, ok.
Et c'est ce qui s'est passé et ce qui n'a pas marché, en fait, et qui a été un peu, je crois.
C'est-à-dire que les solos ou les parties solistes, tout ça, tout s'est écrit, quoi.
Ouais. Et du coup, ça manquait, je crois, pas mal de feeling et un peu abandonné.
Et alors, du coup, c'était quoi? C'était des musiciens de
français.
Quel genre de scène
Oui, c'est du jazz, band, jazz band, ouais.
Solal, par exemple, il y a
Solal
qui avait interprété des solos
improvisés
écrits par Oder. C'est vrai que ça doit être flippant pour un musicien de jazz, quoi, un improvisateur, de jouer des trucs écrits.
Oui, après la transition entre ce qui est écrit et improvisé et le fait qu'on le sache ou pas.
Ouais,
et en fait, si on le sait pas, on se pose plus la question tant mieux.
Oui.
Après, on aime ou on n'aime pas.
Ouais, mais pour le musicien qui fait le truc, je pense que ça doit nous mettre dans une position très curieuse, par exemple. Ouais. Même un mec comme Solal, n'importe quel improvisateur qui a envie d'improviser, ça doit lui faire bizarre, mais.
Ouais.
Mais bon, ça peut donner des. Je trouve l'idée. Effectivement, comme tu dis, c'est un peu une impasse, mais je trouve ça. Enfin, ça me fascine un peu comme idée. C'est tellement paradoxal et. C'est troublant, quoi.
En tout cas, la musique qu'on vient d'entendre, je trouve que c'était pas. Je pense pas que ça a été une impasse. À l'époque, ça a dû être. Je pense que ça n'a pas dû marcher du tout etc. Mais y a vraiment un courant, je trouve, qui est assez caché, quoi. On voit... Après, il y a des choses qui sont passées, des musiques de films qui reflètent un peu cet esprit, notamment celle de Marcia Solal pour À bout de souffle, qui je trouve qui est quand même dans l'esprit, quoi. Enfin, le leitmotiv, et c'est complètement dans cet univers-là, quoi.
Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un courant qui traverse ce truc de... Enfin, même aujourd'hui, je trouve qu'il y a tout un pan dans ce qu'on met sous l'étiquette jazz, qui est une étiquette qui recouvre...
Ça a bien explosé quand même ces derniers temps. Hein.
Et je veux dire, ça avait déjà explosé à cette époque-là, en fait, finalement.
Oui, voilà.
C'est ça qui est... Finalement, ça, c'est un courant, je trouve, qui... qui existe toujours. Alors évidemment, ça devient de plus en plus complexe parce que les références, peut-être dans l'écriture, c'est plus Bartok et Stravinsky. Maintenant, enfin, c'est Ligeti ou forcément le langage s'enrichit et tout. Mais il y a toujours cette tentation d'aller vers l'écriture, la complexité. Enfin, bon, c'est assez intéressant.
Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Parce que...
Qu'est-ce qu'on fait? Il nous reste assez peu de temps.
Il nous reste assez peu de temps, oui.
Donc, t'as envie de passer quelque chose, André? De soumettre quelque chose à l'oreille d'Antonin?
Oui, un truc très court. Ouais. Juste comme ça, qui n'a rien à voir, justement. Comme ça, c'est bien.
Ouais.
Ça s'appelle Guisto.
C'est bien qu'on s'aère aussi, qu'on se mette des couleurs un peu. Parce que c'est vrai que c'est musique, c'est froid.
Tu trouves 3 Guisto. Je veux pas révéler le...
Merde, attends. Il y a pas un... Parce que, en fait...
Variété.
Oui, ok, voilà, c'est ça qui est écrit sur le... Oui.
Voilà, c'était... ça te dit quelque chose?
Super.
Non, hein, non.
C'était un extrait de... Donc, une pièce de Kagel qui s'appelle Variété.
Ouais, ouais.
Pour un petit ensemble. Là, c'est l'ensemble moderne qui joue. Et j'ai réécouté ça. J'ai écouté pas mal Kagel récemment. Et j'ai réécouté ça là, il y a quelques jours. Je trouvais ça super bien.
Ah, c'est vachement bien.
Ouais. 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 Bon, voilà. Je te laisse poursuivre parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps.
Ah
oui, tu vas pouvoir conclure cette émission, je pense.
Déjà?
Ouais. Oui, ça passe trop vite.
Il nous reste 7
minutes. Enfin bon, c'était déjà quand même bien riche, je pense.
Puis c'est bien, il y avait une sous-thématique interne.
Costaud, ouais.
Costaud, ouais. Ouais.
Bah, je suis parti du premier morceau et puis j'ai pris...
T'as tiré le fil.
J'ai tiré le fil et je suis allé jusqu'à, en fait... Enfin, jusqu'à, c'est pas loin, mais... en fait, les premiers disques de Gainsbourg où... arrangé par Goraguer, où il y a ce truc là carrément dans Coco & Co et des morceaux comme ça.
C'est super, les premiers Gainsbourg.
C'est très l'esprit jazz, très noir, très très noir dans le sens
sombre.
Dans
sombre,
film noir.
Ouais, dans le sens film noir. et on peut mettre ça, on peut mettre
c'est toi qui choisis. Hein.
Mm-hmm. j'avais ramené.
Nous, on t'a invité, c'était pour pas avoir à se faire chier à chercher des morceaux.
c'est bien connu. C'est bien connu. Bah, je peux mettre quelque chose qui a rien à voir et que j'aime bien.
Ouais.
C'est ailleurs, mais c'est long. Peut-être pas tout mettre.
Ouais, peut-être on pourra couper. On pourra couper, ouais. Si tu
ouais, veux. Ouais, ou parler, le mettre en tapis, on verra. Voilà, bon, c'est pas très bien de faire ça, mais comme il ne nous reste plus beaucoup de temps, on profite de cette accalmie pour,
de quoi pour dire au revoir.
Et il s'agit,
c'est quoi ?
Il s'agit de, je ne sais pas si tu connais, il s'agit de Sylvain et Larry, trio.
Sylvain et Larry,
ah, ça ne me dit rien du tout.
Non, moi non plus.
Eh ben, vous devriez.
Ah bah ouais, ouais. Ça a l'air très bien.
C'est un trio, donc flûte, voix... Orgamon et batterie.
Ouais.
Avec Antonin Rayon et Emmanuel Scarpa.
Et c'est que je connais pas non plus.
Genre très chouette.
Ouais, ouais. Quel son ?
Ah ouais, 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 c'est étonnant. Puis...
L'arrêt de pique est plutôt pas mal.
Ouais, hein. Ouais, c'est
super. Carrément. Ouais. Sylvain et Larry. Bon. Et ben.
Il nous reste un petit peu de temps quand même, hein.
Ouais,
peu, très peu.
Mais enfin, pour les auditeurs sur Internet, c'est vrai qu'on peut dépasser un peu. Hein. Mm. Donc, on pourrait terminer par quelque chose. T'as une idée derrière la tête ?
Non, pas du tout, non. Non, non. Antonin, est-ce que t'as une idée derrière la tête pour une autre ou
Alors, on a deux solutions.
Dédé.
Soit on se dit au revoir et puis on écoute la fin de ce morceau et ce sera fini. Mm-hmm. Ou soit tu veux placer autre chose, Antonin.
On peut finir. On peut finir par Coco Enco.
Ok.
Ouais, ouais.
Eh bien. Donc, on se dit. Enfin, déjà, on va se dire au revoir, hein, parce que ça ira. On reprendra pas la parole.
Voilà. Et puis, pour. Qu'est-ce que. Tu nous donneras des liens.
Oui.
Pour que sur la page de l'émission, on mette des choses te concernant, parce qu'il y a peut-être des gens qui seront curieux de.
Ouais, oui, j'ai un site. Hein
ah, bah super. Ouais.
Voilà. Ah, bah voilà, comme ça, on
Très
aura
bien.
Juste un lien.
Tout à fait. Bon, bah, c'est parfait.
À mettre. Et bah, donc, merci, Antonin.
Ouais.
Et ben, merci à vous.
Bah, à bientôt.
C'était
très chouette. À la semaine prochaine.
Écoute, le gars qui jazzote, t'entends? Ah, comme il saxote, il est camé à zéro, Coco and Co. Celui qui pianote comme lui, c'est la Coco, Coco and Co. Celui-là qui tapote, c'est un crack, c'est un pote. Lui, c'est la fleur de pavot, Coco and Co. Plutôt la Marie-Joanna.